Galaxy 98.5.
Merci d'écouter Radio Galaxy. On va parler de la prochaine conférence organisée par la Pub Envol qui se tiendra le mercredi 28 janvier à Rieux-Volvestre. Et c'est une conférence qui est consacrée aux nanotechnologies. Et vous allez vite vous rendre compte que l'on en trouve partout autour de nous. C'est Bruno Riondet qui va nous éclairer. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur honoraire de biologie et passionné par les questions de technosciences. Expliquez-nous, ça correspond à quoi ces nanotechnologies ?
Les nanotechnologies ou les nanoparticules sont un domaine de recherche scientifique qui est, depuis quelques décennies et plus particulièrement depuis quelques années, tout à fait en pointe. Il s'agit de manipuler la matière, non pas à une échelle que l'on peut percevoir quand on touche un crayon, un stylo ou une voiture, mais à une échelle tellement petite qu'on parle d'échelle nanométrique. Alors, pour se rendre compte de quoi il s'agit, eh bien, imaginons qu'on prenne un cheveu sur sa tête et qu'on essaye de le couper dans le sens du diamètre, bien sûr, pas dans le sens de la longueur. Mmh. Qu'on essaye de le couper non pas en 4, mais en 50 000 et nous arrivons au nanomètre. Pour le dire autrement, un nanomètre est 1 million de fois plus petit qu'un millimètre. Et ce qui est fascinant au sens premier du terme, c'est-à-dire que c'est absolument extraordinaire pour les scientifiques, c'est qu'à cette échelle, la matière va présenter des propriétés tout à fait nouvelles, mais qui dit propriétés nouvelles, dit aussi risques nouveaux.
Et autant dire qu'elles sont invisibles à l'œil nu.
Totalement. On va trouver, par exemple, du dioxyde de titane dans les dentifrices ou les crèmes solaires. J'invite d'ailleurs les auditeurs de Radio Galaxy, avant de venir à la conférence, de regarder sur les emballages de dentifrices ou de crèmes solaires, par exemple, même si c'est pas la saison, mais peut-être qu'on en trouve encore dans ces boîtes à pharmacie. Mmh. Eh bien, il y a fort à parier qu'on va trouver du dioxyde de titane sous forme nanométrique. C'est un exemple d'un agent blanchissant qu'on trouve dans de nombreux produits, y compris certains médicaments.
Elles sont bien présentes dans notre quotidien. Où les retrouve-t-on plus précisément et est-ce qu'elles ont un rôle à jouer ?
Eh bien, on va les trouver évidemment dans les technologies comme l'électronique ou la robotique, mais on va les trouver dans l'alimentation, on va les trouver dans des produits du quotidien tels que les vêtements ou les produits cosmétiques. Il y a quelques années, on mettait l'accent sur des chaussettes anti-transpiration. Eh bien, ces chaussettes anti-transpiration, en fait, contiennent des nanoparticules d'argent. L'argent est un produit qui est bactéricide, connu depuis très longtemps et qu'on utilise notamment dans le domaine médical. Eh bien ici, on a intégré dans le textile avec lequel on a fabriqué les chaussettes, on a intégré des nanoparticules d'argent. C'est un des exemples. On va trouver également des nanoparticules dans le domaine médical. Et c'est aussi ce qui rend le débat un peu compliqué, mais absolument indispensable, parce que il y a actuellement des applications prometteuses pour le futur. Notamment, et j'aurai l'occasion de l'évoquer pendant la conférence, il y a des applications dans le domaine médical, par exemple des traitements anticancéreux qui utilisent des nanoparticules.
Mmh. On entend souvent parler de nanorobots dans ce milieu.
Absolument. Il existe aussi des nanorobots qui, pour l'instant, sont encore expérimentales, mais vraisemblablement que dans les années à venir, il y aura beaucoup de progrès qui vont être faits dans ces domaines-là.
Alors, vous nous avez parlé des fameuses paires de chaussettes, mais est-ce qu'il y a des objets du quotidien comme ça que nous utilisons sans savoir qu'ils contiennent des nanotechnologies, des objets où l'on ne s'y attendrait pas ?
Par exemple, les raquettes de tennis. Les raquettes de tennis ont de plus en plus des produits qui contiennent ce qu'on appelle des nanotubes de carbone.
Mmh.
Ces nanotubes de carbone ont l'extraordinaire capacité d'être très légers et très résistants. À poids égal, c'est 100 ou 1000 fois plus résistant que l'acier. c'est un des exemples. On va trouver aussi des nanoparticules dans certains habits, ça je l'ai évoqué, évidemment dans les aliments, dans les engrais, en agriculture. Et ce type de nanoparticules, aujourd'hui, comme précisément on ne les voit pas, mais surtout comme il y a encore peu de réglementation, se développent de manière très importante.
Alors la réglementation, justement, on va en parler dans quelques instants. Aussi étonnant que cela puisse paraître, Bruno Riondet, on retrouve des centaines de milliers de nanoparticules de plastique dans chaque litre d'eau en bouteille, ce qui veut dire qu'on a très probablement des nanoparticules de plastique dans notre organisme. Ce n'est pas dangereux ?
Alors, la question du danger et des risques posés par ces nanoparticules est assez compliquée à répondre. Parce que d'une part, il y a encore peu d'études, en tout cas insuffisamment d'études menées. Et d'autre part, parce que lorsque les produits sont mis sur le marché, les agences sanitaires se basent généralement sur les déclarations des industriels qui proposent ces produits. C'est un peu la même règle que pour l'évaluation du danger des pesticides. Et il y a ensuite des batailles d'experts entre les propositions fournies par les industriels et les agences réglementaires et les scientifiques qui essayent d'évaluer. Pour l'instant, ce qui est à peu près sûr, c'est que le recul que l'on a sur l'utilisation de ces produits est encore un peu insuffisant pour pouvoir tirer, disons, des conclusions définitives.
C'est encore un peu trop tôt. Et pareil, l'environnement n'est pas épargné puisque ces nanoparticules sont extrêmement stables et se dégradent difficilement.
C'est ça. On va retrouver ces produits parfois plusieurs années ou plusieurs décennies plus tard. Mais ce que je voudrais aussi évoquer, et c'est un point qui sera abordé bien sûr dans la conférence, c'est que nous devons tirer profit des expériences du passé et ne pas renouveler les mêmes erreurs. Rappelons-nous comment en France et dans la plupart des pays européens, le radium, par exemple, le radium était célébré et utilisé, y compris comme crème et autres cosmétiques. Évoquons aussi l'amiante, qui a été vu comme un produit quasiment miracle. Or, aujourd'hui, presque 30 ans après son interdiction, il y a encore des personnes qui souffrent du cancer de l'amiante, l'asbestose, et des personnes qui, hélas, sont décédées avant qu'on puisse reconnaître leur maladie professionnelle. Ce qui est important à dire, et je félicite Pupenvol d'avoir choisi ce thème-là comme conférence, c'est qu'il faut absolument développer l'information du grand public. Il ne s'agit pas de faire peur ni de culpabiliser. Ce ne sera pas du tout le propos au cours de cette conférence. Mais il s'agira de donner des outils d'information pour que les citoyens, en connaissance de cause, puissent interpeller les élus, puissent agir en citoyens responsables.
Absolument. Et bien sûr, il ne faut pas être scientifique pour assister à la conférence. Elle s'adresse à tout le monde, Bruno.
Elle s'adresse à tout le monde et nous allons nous efforcer de donner des explications claires, simples, de ces questions un peu complexes, il faut le reconnaître.
Alors, je reviens sur ça. Vous nous avez dit que c'est un petit peu trop tôt pour savoir si ces technologies présentent des inquiétudes sur notre santé. Est-ce que cela signifie que nous ne sommes pas en totale maîtrise de cette science, Bruno Riondet ? Quelles sont les questions que l'on se pose aujourd'hui concrètement sur ces nanotechnologies ?
Bien, les questions que l'on se pose, elles sont liées à la taille extrêmement petite de ces produits. Songez que nous sommes, on manipule des produits qui mesurent de l'ordre de 10 à 100 nanomètres, ce qui correspond à, en gros, un dixième de micromètre. Le micromètre étant le millionième de mètre. Or, nos cellules mesurent environ 50 micromètres, ce qui signifie que lorsque nous utilisons des produits qui possèdent des nanoparticules, que ce soit des produits alimentaires, donc par ingestion, ou des produits cosmétiques que l'on passe sur la peau, eh bien, il y a fort à parier que ces nanoparticules vont pouvoir pénétrer à l'intérieur des cellules. Et ce sont des risques qui, pour l'instant, sont très mal évalués. Il y a des études, mais elles demandent à être confirmées, parce que bien souvent, en matière de science, et notamment en matière de science médicale, il faut énormément d'années avant de pouvoir tirer des conclusions définitives.
Vous nous l'avez dit, face à ces constats, on imagine qu'il y a une réglementation qui est mise en place et qui demande d'être sans cesse adaptée. Est-ce qu'aujourd'hui, la science avance plus vite que la réglementation dans ce domaine ?
On peut le dire. On peut le dire, à savoir que les services de recherche-développement des grandes entreprises qui commercialisent ces produits ont des moyens bien plus importants que les agences réglementaires, que ce soit en France, l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, ou au niveau européen, l'Agence européenne, dite EFSA, qui a du mal, parce que les études sont compliquées, qui a du mal à évaluer tous les produits. Il faut aussi dire que, un peu comme pour les pesticides, bien souvent, les agences réglementaires s'appuient essentiellement sur les déclarations des fabricants, même si, par la suite, on s'aperçoit qu'ils ont un peu tordu le cou à la réalité. C'est aujourd'hui extrêmement bien documenté, je pense dans le domaine des néonicotinoïdes ou d'autres pesticides, c'est aujourd'hui bien documenté que certaines études scientifiques, entre guillemets, fournies par les fabricants étaient sinon biaisées, du moins incomplètes. Et c'est pourtant sur la base de cette déclaration-là que les agences réglementaires ont pu, par exemple, prolonger l'autorisation de tel ou tel produit.
Bruno Riondet, en tant que professeur honoraire de biologie et passionné par les questions de technosciences, quel constat vous en faites personnellement et quel regard portez-vous sur l'avenir de ces avancées ?
Le constat, c'est qu'on n'est jamais suffisamment informé de ces questions un peu complexes. Mais il ne faut pas se réfugier derrière la trop grande complexité. Il faut au contraire, et je crois que c'est le rôle des enseignants et des citoyens au sens large, que d'essayer de s'approprier des notions un peu techniques pour pouvoir les faire partager avec le plus grand nombre. Car, in fine, ces questions-là interrogent, au fond, la question démocratique, à savoir, est-ce que nous sommes capables de vivre en société et d'utiliser les innovations scientifiques et techniques dans un sens de progrès, ou bien on se contente de foncer tête baissée derrière n'importe quelle innovation, même si elle n'a pas en soi un progrès humain. Au fond, ce que je voudrais aussi dire à travers cette conférence, et c'est un petit peu ce que je cherche lorsque j'essaye d'aborder ces questions-là, c'est de dire que toute innovation n'apporte pas forcément un progrès pour les humains. Et ce qui est important, c'est la notion de progrès humain. Est-ce qu'on veut gagner en humanité ? Est-ce qu'on veut gagner dans le vivre ensemble ? Ou est-ce qu'on veut simplement des innovations techniques dont l'intérêt, au sens propre du terme, l'intérêt pour la collectivité est parfois limité.
Et bien voilà, c'est une conférence à ne pas manquer le mercredi 28 janvier. C'est à 20h qu'il faut vous rendre à la salle polyvalente de Rieux-Volvestre avec une entrée libre et gratuite. C'est organisé par la Pup en vol et c'est présenté par Bruno Riondet, professeur honoraire de biologie et passionné par les questions de technosciences. On vous remercie.
Merci beaucoup, à bientôt.
Et on vous souhaite une très bonne conférence.
Merci.
Radio Galaxie, c'est la radio que j'écoute.